Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le Canu Info.
Ah,
bah, tu savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière.
Radio
Camille.
Radio Camille 102.2. Camille Info du vendredi.
Des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez, paniquez tout. Attends, paniquez pas.
Niquez tout.
Paniquez tout. Paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi. Bonsoir, bonsoir, il est 19h05, le Canu Info du vendredi est un peu en retard ce soir, mais ça y est, on est toutes et tous là, on va bientôt lancer ces informations et on va commencer ce soir par une triste brève, puisqu'un exilé est mort cette nuit à la frontière franco-italienne.
Ensuite, dans une rubrique nationale, on vous parlera de la reconnaissance faciale au lycée avec une expérimentation avant généralisation. Et toujours dans la rubrique nationale, on vous parlera de violences sexuelles dans les institutions musicales avant d'aller à Fos-sur-Mer où les pollutions d'ArcelorMittal sont mises en accusation. On enchaînera avec une rubrique violence policière. Puisque 26 personnes sont décédées à la suite d'une intervention des forces de l'ordre en 2018, c'est le bilan 26 personnes.
Ensuite, on fera un bilan des blessés du mouvement des Gilets jaunes d'après l'organisation Désarmons-les qui a été interviewée dans le dernier CQFD.
Et puis on vous parlera du couple molesté par Benalla qui passe aujourd'hui devant le tribunal de grande instance. Et on enchaînera avec la rubrique internationale. On ira aux États-Unis où on a appris que les prisonniers, quand ils passent des coups de fil, sont sur écoute, leurs voix sont enregistrées.
Et on terminera par un doc de Lilith, Martine et les autres, qui est sans doute la meilleure émission
de Radio Canu, ou une des meilleures, on ne voudrait pas vexer certaines et certains, qui un doc qui pendant lequel les copines sont allées rencontrer Claire Richard, qui a écrit un bouquin sur les Young Lords, qui sont des Portoricains qui ont mené au début des années 70 des luttes à New York notamment. Et alors pourquoi on vous passe ça? Parce que Claire Richard est ce soir à l'Amicale dans un bar de la Guillotière et elle présente son bouquin, puis elle présente également la revue féministe Panthère Première. Ça commence dès maintenant et si vous n'avez pas envie d'y aller parce qu'il fait froid ou vous avez des choses à faire à la maison, eh bien vous pourrez l'écouter à la fin de nos infos. Il est 19h08 et on commence, donc bonne écoute sur Radio Canu.
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestin.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border!
Alors on commence avec une très rapide brève qu'on a pu lire dans le Dobé, le Dauphiné libéré du jour. Un homme d'une vingtaine d'années a été découvert en arrêt cardio-respiratoire cette nuit, peu avant 3h du matin, sur la RN94 à Val-des-Prés. La police aux frontières qui patrouillait à proximité a vu un chauffeur routier arrêté en pleine voie, près de l'aire de chaînage. Celui-ci tentait de porter secours aux jeunes migrants inanimés et en hypothermie. La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et un médecin du SAMU. L'homme a ensuite été transporté à l'hôpital de Briançon où il a été déclaré mort dans la nuit. Donc, une enquête a été ouverte pour, je cite, homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui, ce qui peut inquiéter un petit peu en fait, puisqu'on sait très bien que les autorités ont tendance à dire que les personnes qui soutiennent les migrants dans leur périple à travers les frontières sont responsables parfois de leur mort, hein, c'est ce que disent les États et les autorités. Donc ce chef d'inculpation, homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui, ça pourrait être un truc pour embêter les camarades qui s'activent aux frontières. Donc voilà, on reste attentif à ce dossier et on vous en reparle régulièrement. Et juste pour vous dire qu'on voit que des personnes cherchent à nous appeler, on est à l'antenne, on ne peut donc pas vous répondre à l'antenne.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme. Et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et donc, on m'entend jamais dans ces micros aussi. Vous m'entendez?
Si, si.
Ah si, ok, bon, alors moi je m'entends pas bien. On est sur le 14 décembre dernier. Et donc, on va dans la rubrique nationale, dans la région PACA, où le conseil régional y a voté une mesure visant à faire installer à partir de 2019 des dispositifs de reconnaissance faciale à l'entrée de deux lycées, un à Nice, un à Marseille. Ça s'est donc été voté et décidé en décembre 2018. Mais déjà, dès le mois d'octobre, la Quadrature du Net, une association de défense des droits et libertés des citoyens et des citoyennes sur Internet, avait demandé à la CNIL la communication des documents en sa possession sur ce dossier, cette dernière ayant été consultée par la région pour la mise en place de ces dispositifs. L'analyse de ces documents ainsi que les précisions apportées par Christian Estrosi, le maire de Nice, confirme l'impuissance de la CNIL à enrayer la banalisation d'une technologie particulièrement liberticide et qui vise ici à s'étendre à l'ensemble des établissements scolaires de la région. Alors, de quoi il s'agit de cette histoire? C'est donc, je vous l'avais dit, en octobre 2017 déjà, où Renaud Muselier, président de la région PACA, a demandé les conseils de la CNIL pour la mise en place dans deux lycées Lycée Marseille, de dispositifs de portique visuel associant des moyens classiques d'identification à un dispositif biométrique utilisant des technologies de comparaison faciale pour apporter une solution fiable et rapide dans un contexte de contrôle d'accès portant sur un nombre potentiellement élevé de personnes. Cette nouvelle étape est la suite logique de sa politique sécuritaire ayant conduit entre 2016 et 2017 à ce que plus de 1300 caméras de vidéosurveillance soient installées dans l'ensemble des lycées de la région. La technologisation à outrance est également présentée par la région comme une réponse au contexte d'austérité budgétaire. Je cite « Ce dispositif constitue une réponse au différentiel croissant constaté entre les exigences de sécurisation des entrées dans les établissements et les moyens humains disponibles dans les lycées, dans le cadre des plans successifs de réduction des effectifs dans la fonction publique. » Du coup, on nous dit qu'on met ces petits dispositifs en place parce qu'il y a moins de gens, c'est un peu prendre le problème à l'envers. La région PACA présente ainsi à la CNIL son projet visant à sanctuariser les entrées et les sorties dans les établissements secondaires. Il s'agit non seulement de reconnaissance faciale, mais également d'un dispositif de suivi de trajectoire de certains visiteurs. Un logiciel installé, couplé à une caméra, permet de détecter des points de comparaison faciale déterminés par un algorithme et de le comparer avec ceux stockés dans une base de données. Un écran mis à la disposition des agents de contrôle permet alors de visualiser trois profils type, genre les verts pour les personnes autorisées, les jaunes pour les personnes non identifiées et invitées à se présenter à l'accueil, et les rouges pour les personnes non identifiées qui ne sont pas dirigées vers l'accueil. Et là, on se demande du coup, apparemment c'est un peu grave d'être rouge. Alors qu'elle avait appelé en septembre 2018 à un débat urgent sur ces nouveaux usages de caméras vidéo et qu'elle soulignait elle-même les risques considérables d'atteinte aux libertés individuelles que cette technologie entraîne, la CNIL n'a opéré ici qu'un suivi très souple, voire accommodant, du projet. En laissant se développer ce type de technologie à des buts sécuritaires, sans qu'il ne soit apporté à un seul moment la preuve de la pertinence d'un tel dispositif par rapport au système existant, sans même une réelle réflexion sur la nature du consentement que peuvent donner des mineurs à l'égard d'une expérimentation au sein de leur lycée, la CNIL participe à la banalisation de ces technologies. Elle devient l'alibi au développement d'une surveillance généralisée qui sera au cœur des safe cities qui commencent à essaimer le territoire. Car sous le qualificatif faussement tranquillisant d'expérimentation mis en exergue par Renaud Muselier et Christian Estrosi, ces derniers souhaitent en réalité, comme ils l'ont eux-mêmes énoncé lors de l'assemblée plénière du Conseil régional, étendre ce dispositif de reconnaissance faciale à l'ensemble des lycées de la région. C'est un nouveau développement toujours plus rapide et incontrôlable de ces nouvelles technologies de surveillance comme les big data, les caméras intelligentes et de reconnaissance faciale au profit toujours des municipalités et de leur police aussi bien sûr. Un tel projet profitera par ailleurs pleinement à son maître d'œuvre, la société Cisco, une entreprise d'informatique américaine qui finance entièrement cette expérimentation et qui se positionne dans un marché en plein essor. Tirer parti de cette occasion que lui donne la région de tester ses nouvelles technologies de surveillance dans des établissements scolaires pour mieux les revendre plus tard dans le cadre de marchés publics à vocation toujours plus sécuritaire.
Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Mais ça pue un cochon.
Violence policière. Canu Info.
La police qui tue, la police assassine. Qu'est-ce que des drogues? Où sont les flics? La police mutile.
Violence policière.
Vingt-six personnes sont décédées des suites des interventions policières en 2018. C'est ce que nous apprend le site Basta. Parmi elles, 7 étaient armées. Les forces de l'ordre étaient en situation de riposte dans 3 cas, face notamment aux auteurs d'attaques terroristes à Trèbes et sur le marché de Noël de Strasbourg. Les 19 autres personnes tuées n'étaient pas armées. 15 personnes ont été tuées par balle. Et parmi elles, 8 personnes tuées par balle n'étaient pas armées. Petits exemples donc, de ces personnes qui ont été tuées par la police en 2018.
Henri L'Enfant, un jeune homme de 23 ans, issu de la communauté dite des gens du voyage, a été abattu de 3 balles, dont une dans la nuque, par un membre du GIGN le 28 septembre, non loin du campement de Fouquières-les-Lances, dans le Pas-de-Calais, lors d'une opération pour interpeller 3 jeunes suspectés de cambriolage. Le fonctionnaire a été mis en examen pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Guy Camara, 26 ans, est touché à la tête par trois agents de la brigade anticriminalité le 17 janvier à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Les policiers ont ouvert le feu à 8 reprises en direction du véhicule conduit par Guy Camara, dont était descendue une personne suspectée de vouloir récupérer une voiture volée, garée à proximité.
Yannick Locatelli, 35 ans, suspecté d'être l'auteur d'un cambriolage, est tué par un capitaine de gendarmerie en Guadeloupe alors qu'il tente de se soustraire à un contrôle routier le 11 mars.
C'est également dans le cadre d'un contrôle routier que Aboubacar Fofana, 22 ans, est tué à Nantes début juillet par un CRS. Romain, 26 ans, est lui tué en août après une course-poursuite dans les rues de Paris avec un policier. Le jeune homme avait refusé de se soumettre à un contrôle routier à cause d'un feu défectueux. Sa famille a déposé plainte auprès de l'IGPN pour homicide volontaire.
Et les armes de la police tuent également la police. Une policière de 25 ans, Alice, est tuée d'une balle dans la tête par un de ses collègues qui manipule son arme de service dans un commissariat de Saint-Denis. Elle succombe à ses blessures après 3 semaines dans le coma. Le policier auteur d'un coup de feu est mis en examen pour homicide involontaire.
Un mort à Marseille, lors d'une altercation à la sortie d'une boîte de nuit, entre un homme armé en état d'ébriété et un policier en dehors de son service, qui aurait tenté de le raisonner avant d'utiliser son arme. Ce policier a été mis en examen pour homicide volontaire.
Les armes dites non létales, taser, LBD, grenade, actuellement au cœur d'une controverse pour celles qui sont utilisées lors d'opérations de maintien de l'ordre contre les manifestations de Gilets jaunes, sont mises en cause dans les deux affaires. Le 1er décembre, lors de l'acte 2 des Gilets jaunes, Zineb Redouane est touchée au visage par un éclat de grenade lacrymogène lancé par des CRS qui encadraient une manifestation. L'octogénaire refermait ses volets au moment où le cortège passait au bas de son immeuble quand elle a reçu le projectile. La vieille dame s'est atteinte le lendemain durant son opération chirurgicale à l'hôpital.
La seconde victime, Madi Boualouane, a succombé le 9 juillet après avoir reçu 3 décharges de pistolet à impulsion électrique, qu'on appelle communément taser, lors de son arrestation. L'homme atteint de schizophrénie aurait tambouriné muni d'un bâton sur des pancartes après avoir tenté de s'introduire dans une maison dans l'Aisne. Selon le procureur de la République, le tir de taser ne serait pas la cause directe de la mort. Voilà, comme d'habitude.
Parmi les 26 morts de 2018, 3 personnes sont décédées en fuyant à pied les forces de l'ordre, en chutant d'un immeuble ou en se noyant. C'est le cas d'une réfugiée nigériane, Blessing Mathieu, qui s'est noyée dans la Durance le 7 mai 2018 à la frontière franco-italienne après avoir tenté d'échapper aux patrouilles de police ciblant les migrants.
Autre affaire trouble, celle de Bakary S, retrouvée sans vie dans l'étang du bois de Boulogne, à Paris, après une course-poursuite avec la police. Des traces de sang sont cependant retrouvées sur le corps du défunt. La famille a porté plainte pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Le décès d'Ismaël Day, sénégalais, démuni de titre de séjour, pourrait avoir eu lieu alors qu'il était entre les mains de la police lors de son arrestation sur le parvis du château de Versailles le 30 avril. Selon les autorités, le vendeur ambulant aurait été renversé par un véhicule de police venu en renfort. Des témoins affirment que l'homme de 58 ans a été roué de coups par les fonctionnaires. Une enquête a été confiée à l'inspection générale de la police nationale pour déterminer les circonstances exactes de sa mort.
Et donc, pendant les 5 dernières années, depuis 2014, en moyenne, entre 26 et 27 personnes sont décédées au contact des forces de l'ordre. C'est davantage que dans les années 2000, durant lesquelles les interventions policières ont été mortelles dans 10 à 15 affaires. Avec 35 décès, l'année 2017 se distinguait particulièrement. Ce pic était notamment dû au nombre de meurtres perpétrés par des policiers en dehors de leur service, mais avec leurs armes contre leurs proches, compagnes, parents et parfois enfants. Et on parle de violence policière et a priori, peut-être pas sur la question des meurtres, mais en tout cas des violences, l'année 2019 risque de battre des records et c'est sans doute lié au mouvement et à la répression du mouvement des Gilets jaunes. C'est notamment, alors on en parle un petit peu plus alors que c'était complètement tu pendant quasiment les 2 premiers mois du mouvement. Cette répression dont on parle aujourd'hui médiatiquement plus, notamment suite aux, au travail de David Dufresne, mais aussi à d'autres individus ou collectifs, comme le collectif Désarmons-les. Et ce collectif, eh bien, il a donné un entretien au journal CQFD qui est paru cette semaine, journal de février donc 2019 de CQFD. Et le collectif Désarmons-les fait un peu le bilan de la répression du mouvement des Gilets jaunes. Voilà, alors on va pas vous lire ici l'entretien, peut-être simplement en retenir les grands axes. D'abord, le collectif Désarmons-les rappelle que c'est pas nouveau, hein, le fait que le maintien de l'ordre en France blesse, mutile. Jusqu'à présent, c'était surtout les habitantes et habitants des quartiers populaires, les supporters de football et les manifestantes et manifestants. Et on l'avait notamment vu en 2016 lors de la loi travail où déjà on avait vu le nombre des mutilés et des blessés augmenter manifestation après manifestation. Et là, déjà à l'époque, on se disait que c'était fortement en augmentation par rapport aux manifestations des années précédentes. Alors là, la nouveauté, c'est que depuis fin 2018 et le mouvement des Gilets jaunes, on a vu aussi débarquer des blindés, la brigade canine, la police à cheval. On a revu apparaître les policiers à moto et à deux sur la moto, ce qu'on appelle des voltigeurs, ce qui est relativement nouveau, ce qui avait été retiré des techniques de maintien de l'ordre depuis la mort de Malik Oussekine. Et donc ça a réparu là fin 2018. Et puis on en a parlé à ce micro là et on commence à en parler de plus en plus dans les médias mainstream. Il y a une utilisation massive des grenades de désencerclement Gli F4, donc des grenades lacrymogènes assourdissantes et à effet de souffle qui contiennent de la TNT, ainsi que des LBD, les lanceurs de balles de défense. Donc après 2 mois de protestation, le bilan humain est lourd et je dis 2 mois, je me trompe, en fait on est à déjà plus de 3 mois. On a donc, on l'a déjà dit, recensé un dossier lié à la police, celui de Zineb Redouane à Marseille qui a été victime d'un tir de grenade lacrymogène alors même qu'elle était en train de fermer les volets de chez elle quand la manifestation passait en bas de chez elle. Elle a pris ce tir de lacrymogène à sa fenêtre et elle est morte le lendemain à l'hôpital. Les cas de blessures graves, c'est-à-dire celles qui ont entraîné une fracture ouverte ou des traumatismes crâniens sérieux, pour le collectif Désarmons-les, ils en ont recensé 110 cas jusqu'à présent, mais ils savent que c'est très en dessous des réalités. Par exemple, ils donnent cet exemple de Rouen, où des témoignages font état de 5 blessés graves, alors que eux, sur leur liste, hein, ce qui leur a été envoyé, ils n'en comptent qu'un seul. Voilà, donc ces chiffres, ils sont sans doute beaucoup plus impressionnants que ceux qu'ils comptabilisent directement. Quant aux blessés légers, ils estiment qu'ils sont plus de 3000 depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Alors, ces blessés, on l'a dit, c'est notamment lié à l'utilisation massive des lanceurs de balles de défense, les LBD, et notamment les 8, 15 et 22 décembre à Paris, au sein des détachements d'action rapide de la police, environ un agent sur 5 avait un LBD, ce qui fait quand même beaucoup, 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 et laisse à penser qu'ils n'étaient pas tous habilités, ces agents, pour porter cette arme et s'en servir. En tout cas, ils ont utilisé leur LBD sans poser le genou à terre le plus souvent, ce qui est réglementaire, sans prendre le temps de viser, on le voit sur de nombreuses vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, et ils ont tiré dans la foule au milieu des gaz. Là encore, les règles d'utilisation n'ont pas du tout été respectées. Alors, pourquoi utiliser ces armes à ce moment-là? Ben, sans conteste, pour le groupe Désarmons-les, il s'agit de dissuader la contestation en frappant fort. La contestation que veut le pouvoir, ce sont des pétitions et des défilés déclarés, des défilés pacifistes, des défilés tranquillous, un peu comme ceux de cette semaine, où les gens ne crient pas trop fort et surtout ils sortent pas des parcours balisés par la police. D'ailleurs, le gouvernement est en train de faire évoluer le droit pour que tout autre type de manifestation devienne un attroupement, ce qui justifierait la répression. Il s'agit en fait de mettre un terme au droit de manifester. Alors, y a-t-il enfin une justice pour les blessés qui portent plainte contre les violences qu'ils ont subies ? Eh bien, depuis le début du mouvement, l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, a été saisie d'une petite centaine de cas de violences. Mais là encore, il y a peu de chances que ces plaintes aboutissent, à moins qu'il y ait une vidéo qui montre la scène de bout en bout et que le blessé n'ait absolument rien fait du tout. Autrement, très peu de chances qu'ils aient gain de cause. De mémoire de cette organisation désarmons-les, un seul flic a été condamné depuis 2010 et il avait failli éborgner une lycéenne à Montreuil. Et il y avait des vidéos qui montraient qu'elle avait pour le coup rien fait et il a pris 18 mois de sursis. Par ailleurs, le parquet est totalement à la botte du pouvoir, comme on l'a vu dans l'affaire du commandant Andrieux à Toulon, quand le procureur a décidé à peine 24 heures après que les images aient fait le tour des réseaux sociaux. Vous savez, ce commandant Andrieux, c'est celui qui a boxé des manifestants et qui les a lynchés complètement gratuitement. Donc le procureur a dit qu'il abandonnait tout type de poursuite contre lui. Donc on voit bien ici que le parquet est complètement à la botte du pouvoir, comme le rappelle Désarmons-les. Voilà pour ce petit bilan, un gros dossier sur les gilets jaunes dans le dernier CQFD qu'on vous conseille vivement. Et puis... Tant qu'on est sur les questions de police et de justice, on termine rapidement. Aujourd'hui était jugé le couple, vous savez, ce couple qui a été molesté par Benalla et son ami Vincent Crase. Alors, ils étaient accusés d'avoir jeté des projectiles sur des CRS. Il s'agissait d'une carafe et d'un cendrier. Et alors, eux, ils ont été jugés, contrairement à Alexandre. Et alors, ils risquaient une peine de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et suite à leur passage devant le tribunal de grande instance, ils ont écopé. Alors, selon les sites, la somme n'est pas la même. En tout cas, ils n'ont pas pris de sursis, pas pris de ferme. Ils ont dit qu'ils étaient désolés, que ce n'étaient surtout pas des casseurs, qu'ils étaient là par hasard, hein, comme ils l'ont toujours dit d'ailleurs, pour manger une glace et fêter leur 6 ans de vie commune. Et ils ont pris 500 euros d'amende, selon certains médias, et selon Le Monde, 1000 euros d'amende. On ne sait pas exactement, mais voilà, entre 500 et 1000 euros d'amende pour ces deux-là. Quant à Benalla, eh ben, il n'a toujours rien, lui.
Voilà. Et donc, on voit que non seulement l'État organise et orchestre la violence avec la répression et les violences policières, on voit aussi que l'État permet des violences dans ses institutions, notamment des violences sexuelles. C'est le cas, par exemple, dans ses institutions musicales. L'année dernière, l'Obs publiait une enquête aux résultats terrifiants intitulée « Silence, on viole dans les conservatoires » et qui faisait état du nombre de cas d'agressions sexuelles et de viols par des enseignants sur des élèves dans des cours particuliers, dans une discipline quand même où les pressions, les menaces et les humiliations sont encore largement de mise. Et les choses, elles semblent pas tellement s'améliorer plus tard dans la vie professionnelle des musiciennes, car les cas d'agressions sexuelles et de viols sont aussi très nombreux. Et il faut croire que justement l'État, elle laisse ces grandes institutions continuer à perpétrer ces espèces de comportements qui sont assez traditionnels, on a l'impression, et il n'y a pas une réelle volonté de changer les choses. C'est en tout cas ce qu'on peut se dire quand on voit l'Orchestre National de France a invité Charles Dutoit à remplacer Emmanuel Krivine, qui en fait était malade et ne pouvait pas orchestrer un opéra. Et depuis qu'il y a une dizaine de chanteuses ou de musiciennes qui ont témoigné avoir subi en France, au Canada et aux États-Unis des violences sexuelles de la part de chefs d'orchestre, il y avait quand même un grand nombre d'institutions musicales, notamment britanniques et américaines, qui s'honoraient de ne plus l'inviter. S'il est vrai que la justice n'a pas statué sur le cas Dutoit, tout le monde sait que cette impunité s'explique uniquement par la prescription des faits. Et il y a une des victimes qui s'exprime sur le sujet en disant « C'est un coup de poignard au regard de la défense des droits des violences faites aux femmes d'engager un homme qui n'est pas digne de confiance et qui échappera à la justice encore une fois ». Donc on peut s'étonner effectivement qu'en France, il y ait une scène aussi illustre que la Philharmonie de Paris qui... qui permettent que un des orchestres de la radio du service public ne se rende pas compte à quel point c'est symbolique de continuer à travailler avec cette personne et de la laisser continuer son métier comme si de rien n'était. Quand bien même ces deux institutions, elles dépendaient toutes les deux directement de l'État. Oui, je disais, ces deux institutions, en fait, ce qui est grave, c'est qu'elles dépendent directement de l'État. Et c'est ce même État qui pourtant disait qu'il allait lutter pour l'égalité entre les hommes et les femmes et que ça allait être une cause importante du quinquennat. On voit que c'est évidemment pas le cas. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand même, il y a une partie des musiciens et des musiciennes de l'Orchestre National qui avaient de grandes réserves ou qui s'opposaient à ce choix. Mais il faut croire que ça n'a pas suffi. Il y a la CGT Spectacle qui a lancé en juillet 2017 la campagne qui s'appelle « L'envers du décor » et qui dénonce justement ces violences sexistes et sexuelles dans le monde du spectacle. Et c'est une invitation qui est faite à témoigner anonymement par le biais d'Internet et donc de démontrer ces pratiques. Il y a, de montrer que ces pratiques existent encore. Et il y a des dizaines de femmes qui ont rapporté ce qu'elles ont subi. Mais il y a toujours une peur d'être blacklistée pour ces artistes intermittentes du spectacle, donc précaires, et donc un sentiment d'injustice qui se développe à cause de ce qui a conduit ces personnes à... Enfin, il y a un sentiment d'injustice qui conduit ces personnes à ne pas continuer à témoigner parce que, de toute manière, ça n'a que très, très peu souvent une réelle reconnaissance. Quoi. L'Union syndicale des artistes musiciens de France, elle a pour sa part publié en 2018 un article détaillé sur des atteintes constatées à la dignité et aux droits des personnes, dont certaines relèvent manifestement des juridictions pénales. Les exemples cités dans cet article, reproduit partiellement ci-dessous, concernent les maisons des opéras à Lyon, à Nice et à Toulouse. Donc ça, vous pouvez le retrouver justement sur le communiqué de la CGT Spectacle. Le syndicat d'employeurs Force Musicale et l'AFO, l'Association Française des Orchestres, a publié en 2018 une charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des orchestres et des opéras, dans laquelle il est précisé que lutter contre les violences sexistes et les discriminations reste une priorité pour chaque organisation membre. Donc du coup, on se demande comment on peut expliquer qu'aucun des responsables hiérarchiques mis en cause ou condamnés par la justice n'ait été sanctionné et pourquoi tous continuaient à travailler comme si de rien n'était. Un an et demi après le déclenchement du mouvement MeToo, cette affaire à la Philharmonie avec l'Orchestre National de France ne peut que nous renforcer dans notre détermination à agir pour faire changer les choses. Sinon, en France, on continuera à prétexter l'excellence artistique pour faire passer au second plan le respect des droits fondamentaux des personnes. Et donc après les violences sexuelles, il y a les violences au travail, voilà, violences policières, violences sexuelles, violences au travail, effectivement, c'est une rubrique nationale très rose. Du coup, on va aller à Fos-sur-Mer, où les pollutions d'ArcelorMittal ont été mises en accusation. Du coup, cette usine sidérurgique dont vous avez sûrement déjà entendu parler, notamment parce qu'il y a fréquemment des personnes mortes à cause de très fortes négligences de la part de l'entreprise sur les sécurités, c'est-à-dire qu'ils font des économies par exemple sur les barrières qui font que les gens tombent dans des fosses remplies de fonte en fusion, c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois. Et voilà, là c'est pour autre chose que l'usine fait parler d'elle. C'est parce que ces derniers mois, il y a une série d'enquêtes environnementales et sanitaires qui ont confirmé les risques sérieux que cet établissement industriel représente à cause des produits polluants qui donc mettent en danger les travailleurs et les riverains qui vivent à côté de l'entreprise. Donc il y a des gaz toxiques, des particules fines, des métaux lourds. Donc malgré les infractions et des condamnations répétées, le groupe ne donne pas l'impression de faire beaucoup d'efforts pour réduire ses rejets. Mi-décembre, l'association écologiste France Nature Environnement a saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour obliger ArcelorMittal à mettre fin aux dépassements répétés des seuils de pollution constatés sur son site de Fos-sur-Mer. Donc de l'oxyde d'azote, du dioxyde de soufre, des poussières, du benzène, les services de l'État ont relevé pas moins de 36 infractions environnementales dans l'usine depuis 2013, date à laquelle ArcelorMittal avait déjà été condamné pour des abus similaires. Ces infractions ont donné lieu à 10 arrêtés préfectoraux, dont 4 de mise en demeure. Les préfets des Bouches-du-Rhône ont finalement infligé au groupe sidérurgique, dans les derniers jours de l'année 2018, une amende, mais bon, une amende de seulement 15 000 euros, assortie d'une astreinte de 1 500 euros par jour. Donc pas quoi affecter réellement les décisions économiques d'ArcelorMittal, qui assure néanmoins être en train de réaliser des investissements nécessaires pour réduire les rejets. Quelques semaines plus tard, et c'est cette fois un rapport de l'inspection du travail qui met en lumière des carences criantes dans la protection des salariés de la coquerie. Donc à l'endroit où ils font de la houille. Les ouvriers chargés de l'enfournement du charbon, en particulier, sont exposés à un dérivé du benzène, un puissant cancérigène, à un niveau correspondant à plus de 32 fois la norme, selon des mesures effectuées en octobre 2018. Lors d'une précédente visite en juin 2018, ce niveau n'était que de 14 fois la norme, sans qu'ArcelorMittal ne prenne les mesures nécessaires. Plusieurs dispositifs de détection et de ventilation de la coquerie seraient défaillants et la direction n'obligerait même pas ses ouvriers à porter des équipements de protection respiratoire. Le rapport de l'inspection du travail a donné lieu à une autre mise en demeure, obligeant ArcelorMittal cette fois à mettre fin à ses manquements sur 2 mois, en brandissant la menace d'une fermeture administrative de l'usine. Les travaux seraient en cours, mais les syndicats craignent que ces mesures d'urgence ne pallient pas le manque chronique d'investissement sur le site. Dans ce cas également, les risques étaient connus depuis longtemps, documentés par les salariés eux-mêmes, le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, et aussi par certains médecins. Le groupe sidérurgique annonce régulièrement avoir investi plus de 100 millions d'euros ces dernières années dans son usine de Fos-sur-Mer, sans plus de précision. Ces infractions et à répétition suggèrent que la mise à niveau de ces équipements industriels n'est pas réellement la priorité d'ArcelorMittal, qui s'est fait plutôt une spécialité de dénoncer les horribles contraintes environnementales qui leur étaient imposées et ce qui les empêche d'être réellement de bons concurrents face à l'Asie. Les services de l'État constatent les dégâts, mais les sanctions restent tout à fait dérisoires pour une telle entreprise. En attendant, les associations d'habitants, écologistes et syndicaux se sont associées pour déposer en novembre dernier une plainte contre X visant à dénoncer la pollution chronique qui sévit à Fos-sur-Mer, l'une des principales concentrations de sites industriels à risque en France.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale.
International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et c'est dans un article du Courrier international qu'on a appris tout à l'heure que les prisons de l'État de New York, du Texas, de Floride et d'Arkansas montent discrètement une vaste banque de données des voix de leurs détenus. Ces empreintes vocales sont ajoutées à leur profil biométrique à l'instar de leur photo ou de leur empreinte digitale et analysées par des logiciels d'une entreprise technologique privée. Le système avait déjà été utilisé auparavant par les services de renseignement américains pour repérer les appels de membres d'Al-Qaïda. Et il vient donc maintenant d'être proposé aux autorités carcérales et bien sûr certaines s'en sont emparées. L'objectif officiel de cette innovation serait de mieux identifier les prisonniers lors des écoutes de leurs conversations aux cabines téléphoniques de la prison, car certains utilisent des codes pour passer incognito des appels ou pour faire passer des messages, on s'en doute. Reste aussi un autre problème, c'est que le logiciel compile aussi à leur insu les voix de leurs interlocuteurs à l'extérieur, qui entrent eux aussi à leur tour dans le grand fichier, pour faciliter les enquêtes judiciaires ultérieures sur donc l'entourage des détenus. En ce moment, nous sommes dans l'Amérique de Trump, s'inquiète un prisonnier, et il n'y a plus de limites. En effet, on s'en rend compte. Pour les détenus, il faut savoir que les options sont assez limitées, puisque s'ils refusent de donner un échantillon de leur voix durant un bref questionnaire téléphonique, ils sont privés de toute communication avec l'extérieur, autre qu'avec leur avocat. La plupart obtempèrent donc, on s'en doute bien, on imagine pourquoi.
Voilà, voilà, voilà. Et c'est presque tout pour les infos de ce soir, presque, puisque on vous l'a dit en tout début d'émission ce soir, j'allais dire à l'atelier Canular, pas du tout, à l'amicale Claire Richard et le collectif Panthère Première. Panthère Première, c'est un magazine qui en est à son troisième numéro, je crois, qui avait commencé en 2017. Ils en publient deux par an. Eh bien, tout ce beau monde est à l'amicale ce soir. C'est rue Sébastien Griff, l'amicale. Et Claire Richard vous parle notamment, et est en train sans doute de parler, de son livre qui s'appelle Young Lords et qui a été publié l'année dernière. C'est un super bouquin fait d'entretiens avec des membres actives et actifs de ce groupe portoricain new-yorkais, et nos petites camarades de Lilith Martin et les autres, qui ne sont pas toutes petites d'ailleurs, ont réservé une émission super bien sur la question, et on vous laisse avec le début de cette émission, donc une quinzaine de minutes, où on va entendre Claire Richard à des lectures de son livre.
Nous voulons l'autodétermination pour les Portoricains, la libération sur l'île et aux États-Unis.
Nous voulons l'autodétermination pour tous les Latinos.
Nous voulons la libération de tous les peuples du tiers-monde.
Nous sommes des nationalistes révolutionnaires et nous sommes contre le racisme. Nous voulons l'égalité pour les femmes, abat le machisme et le patriarcat.
Nous demandons le contrôle par la communauté de nos institutions et de nos terres.
Nous voulons un vrai enseignement de notre culture afro-indienne et de notre langue espagnole.
Nous sommes contre les capitalistes et les alliances avec les traîtres.
Nous sommes contre l'armée américaine.
Nous voulons la liberté pour tous les prisonniers politiques et les prisonniers de guerre.
Nous sommes internationalistes.
Nous croyons que l'autodéfense armée et que la lutte armée sont les seuls instruments de la libération.
Nous voulons une société socialiste.
This is louder than usual. Your organ is louder than it is at the gate. Just kind of leave it grooving by itself. Let it groove on its own thing, you know? Then when it gets in it, then you can put in some fills. But don't do it at the beginning. It's holding it back. Can we start again?
En octobre 1969, un groupe de jeunes New-Yorkais d'origine portoricaine présente leur programme en 13 points. Ils s'identifient comme un parti politique révolutionnaire inspiré des Black Panthers et ils se nomment les Young Lords. En avril 2018, Lilith Martin et les autres rencontrent Claire Richard qui a enquêté sur ces jeunes révolutionnaires et écrit un livre consacré à leur histoire.
J'avais lu une histoire des Black Panthers qui est aux éditions de l'Échappée, il y a assez longtemps. Et j'avais été intriguée par une note de bas de page qui mentionnait la Rainbow Alliance, qui était une alliance à Chicago entre donc, les Black Panthers, mais aussi plusieurs autres groupes, des groupes de blancs des Appalaches qui s'appelaient les Young Patriots, ces fameux Young Lords, et des Chicanos qui s'appellent les Brown Berets. Et je me souviens, m'a dit, oh ouais, mystère, sur ces gens. Et ensuite, j'ai habité aux États-Unis plusieurs années à New York. Et je travaillais sur un sujet qui n'avait rien à voir, qui était autour, en gros, de lutte de quartier, autour de l'éducation, avec en fond la lutte contre la gentrification du nord de Brooklyn, qui était un quartier vraiment historiquement plutôt dominicain, mais aussi portoricain. Et j'ai rencontré un responsable associatif. Et en préparant l'interview, je m'étais aperçue, en lisant son site, que c'était un ancien Young Lord. Donc je lui ai posé la question à la fin de mon entretien, qui portait donc sur les écoles et tout. Et il s'est illuminé vraiment son visage à faire « Oui, yes, je suis un ancien Young Lord. » Et de là, j'ai remonté en fait cette histoire. Et c'était aussi parce que, habitant à New York, comme il y a pas mal d'anciens fondateurs qui sont dans la région, soit à New York même, soit upstate New York, en haut de l'État de New York, c'était facile de les contacter. Voilà, donc j'ai commencé à faire une série d'articles pour des petits journaux de gauche, un magazine qui s'appelle Le Tigre, qui était vachement bien. Voilà. Et petit à petit, j'ai fait des enquêtes de plus en plus longues et j'ai proposé de faire un bouquin aux éditions de l'Échappée.
New York Times, 19 août 1969. Hier, devant des immeubles décrépits, une HLM et les voies ferrées de Penn Central qui ramènent les habitants des banlieues chez eux après le travail, un homme en béret violet a expliqué pourquoi son groupe, l'organisation des Young Lords, avait déversé des ordures en signe de protestation dans les rues dimanche dernier.
le groupe des Young Lords a déclaré qu'ils avaient agi pour montrer au peuple d'El Barrio, le bidonville portoricain d'East Harlem, que des actions de ce type étaient nécessaires pour que la mairie réponde aux besoins de la communauté. Le porte-parole du groupe, qui se fait appeler simplement Yoruba, a déclaré « La violence pour la violence ne nous intéresse pas et nous ne cherchons pas à déverser des poubelles dans la rue. Mais si nous nous heurtons toujours à la bureaucratie, si la mairie ne fait jamais rien, alors nous n'avons pas le choix. » Le jeune homme, qui a refusé de donner son véritable nom par peur d'être harcelé par la police, a déclaré que les Young Lords étaient une association latino-américaine qui était née comme un gang de rue à Chicago et constituait maintenant dans plusieurs villes des groupes sur le modèle des Black Panthers. Les Lords entendent unir les Américains hispanophones pour mettre fin à l'oppression dont ils sont victimes.
Alors moi, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est toutes les luttes communautaires, en fait. Donc, je les ai décrits comme des nationalistes révolutionnaires, c'est-à-dire que, en gros, eux, ils militent très fort pour l'indépendance de Porto Rico, mais avec l'idée aussi de, aux États-Unis, améliorer, en gros, les conditions de vie, les conditions d'existence de leur communauté, à savoir les Portoricains. Et donc, ça se traduit par plein d'actions hyper concrètes, d'actions directes qui confinent à l'autogestion, leur philosophie est moins l'autogestion elle-même que l'idée de créer des alternatives, mais aussi de forcer la mairie à faire son boulot. Donc c'est pas non plus complètement une perspective vraiment complètement autogestionnaire et tout ça. Et en fait, ces actions-là, moi, c'est ça qui m'a particulièrement parlé, et surtout les questions autour de la santé. Les quartiers où ils étaient actifs, donc notamment East Harlem dans Manhattan, c'est un quartier qui était dans un état vraiment catastrophique, hyper délabré, avec des conditions de... enfin, plein d'appartements insalubres et tout ça, et donc des conditions sanitaires catastrophiques. Avec plein de... enfin, vraiment, il y a des témoignages dans le livre d'une jeune... enfin, qui est plus jeune aujourd'hui, mais quand elle arrive, elle a une vingtaine d'années, elle arrive de Philadelphie, et elle dit, mais pour être bénévole dans des programmes fédéraux, justement, d'aide à la pauvreté, machin, et elle dit, mais j'avais jamais vu ça. C'est vraiment des conditions de vie du tiers-monde, et je savais pas que ça existait aux États-Unis. Et donc, il y a plein de problèmes sanitaires, de tuberculose, de saturnisme, de toxicomanie, et ils vont, les Young Lords, avec d'autres militants aussi, notamment les Black Panthers de ces quartiers, faire des actions vraiment autour de la santé. Et donc ça va être des campagnes de dépistage sauvage, parce que une grande partie de la communauté ne se rend plus dans les hôpitaux qui sont, pareil, vétustes, dégueulasses, qui sont, et où ils sont aussi traités vraiment comme des citoyens de seconde zone. Donc la façon dont ils sont traités aussi incarne le système de discrimination un peu général dans lequel les portoricains vivent, qui est à la fois racisme, classiste, etc. Et donc, ils créent en gros des alternatives, quoi. Ils vont faire des programmes de dépistage du saturnisme parce qu'il y a un gros problème de saturnisme dans la communauté, mais que c'est pas détecté puisque les gens ont cessé de se rendre à l'hôpital dans bien des cas. Même chose pour la tuberculose. En gros, l'idée de ces actions-là, c'est que ça s'inscrit dans un mouvement que j'ai découvert à l'occasion de Santé Radicale aux États-Unis dans les années 60. Et c'est vraiment ces idées-là, quoi, que faut déprofessionnaliser la médecine, qu'il doit y avoir des échanges de compétences entre les experts et les non-experts, et que les communautés, quoi, les gens qui sont les premiers concernés, doivent avoir une place prépondérante ou centrale dans le contrôle des institutions de santé et aussi dans la conception même des soins et la façon de les donner, quoi. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement puissant comme idée. Et en fait, j'avais pas forcément fait le lien, parce que bien sûr, ça existe dans le féminisme de ces années-là aussi, la question de la prise en main du savoir médical, de la réappropriation des savoirs médicaux, de l'auto-avortement, de ces choses, des choses comme ça. Ouais, en fait, c'était un pan de l'action de ces mouvements-là nationalistes que je connaissais peu. Et parce qu'aussi, à l'occasion, j'ai découvert que ça a été un pan très important aussi de l'action des Black Panthers, pour le coup. Avec des programmes de petits déjeuners gratuits, des cliniques de santé qu'ils organisaient dans plusieurs quartiers et qui servaient, c'est vraiment une espèce de pensée globale de la santé, quoi, qui servent à la fois de dispensaires de soins basiques et aussi d'endroits un peu d'aide sociale où les gens peuvent recevoir une aide juridique, etc. Et ce qui forme les bases de la santé communautaire aujourd'hui.
New York Times, 30 décembre 1969. Les Young Lords offrent soins et nourriture dans une église occupée. Un panneau de bois avec des lettres rouges pendait d'une fenêtre du deuxième étage, annonçant que l'édifice était désormais la Iglesia de la Gente, l'église du peuple. des vigiles courtois montaient la garde devant une porte de côté de l'église et demandaient aux visiteurs de décliner leur identité et de signer un registre avant d'entrer. Nombreux sont ceux qui ont été admis dans l'église toute la journée, mais tous les étrangers étaient soigneusement fouillés à l'entrée pour vérifier qu'ils n'avaient sur eux ni armes ni stupéfiants. Ce matin, un groupe d'environ 75 enfants chantait « Tout le pouvoir au peuple » pendant qu'on leur servait des jus de fruits, des gâteaux et du lait avant d'assister à un cours d'histoire sur l'Amérique latine, donné par un Young Lords. Un porte-parole a indiqué que plusieurs médecins et infirmières recrutés dans les hôpitaux voisins avaient examiné les enfants et leur avaient fait un test de dépistage pour la tuberculose et le saturnisme dans le cadre d'un programme médical.
Même s'il y a eu beaucoup de membres femmes chez les Black Panthers, vraiment beaucoup, et que justement sur ces programmes, ce que les Panthères appellent les programmes de survie, donc toutes ces choses qu'il fallait faire en urgence, en fait, créer dans les quartiers puisque l'État ne le faisait pas, donc les crèches, les petits déjeuners gratuits, les cours d'éducation, etc. Bon, éducation politique slash propagande selon le point de vue qu'on veut adopter, mais les trucs de santé, donc ça, beaucoup de femmes étaient présentes vraiment dans la vie quotidienne des Panthères. Il y avait plein de femmes fortes, etc., et puissantes. Mais le parti des Black Panthers n'a jamais été explicitement féministe, même s'il y a des textes de Cleaver qui, à un moment, disent qu'il faut donner la même place aux femmes qu'aux hommes dans la lutte, etc. Et les femmes accèdent à des rôles de dirigeants parce que les hommes sont en prison ou morts ou en exil. Et la différence avec les Young Lords, c'est qu'effectivement, ils vont être, à la suite des actions des membres féminines du parti, un parti explicitement féministe. Alors je pense que ça tient aussi au fait qu'ils étaient moins nombreux, quand même, que les Panthères, et que donc les femmes, quelques femmes, ont pu jouer un rôle très fort dans le fait de transformer le parti en parti féministe. Parce que à sa création, donc en 69, il est créé par un groupe d'hommes, et la forme du parti, elle reproduit plutôt celle des Black Panthers, donc c'est-à-dire une forme extrêmement pyramidale, quoi. Il y a un comité central qui n'est pas du tout élu, qui choisit lui-même quel membre le rejoigne. Donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas du tout d'horizontalisme ou d'aspect démocratique là-dedans. Et donc ça, c'est la structure de base. Il n'y a que des hommes dans le comité central. Mais il y a plusieurs femmes qui rejoignent assez tôt le mouvement, soit parce qu'elles ont suivi, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément d'expérience politique, qui sont très jeunes, qui viennent avec leurs compagnons. Et il y en a d'autres, comme deux figures, notamment Denise Oliver, que j'ai longuement rencontrée, interviewée, qui est fantastique, vraiment, à mille égards, et Iris Morales, par exemple. Et là, c'est deux femmes qui ont déjà une expérience politique, pour le coup. Denise Oliver, elle est afro-américaine. Elle vient d'une famille où il y a une tradition politique longue. Elle raconte qu'elle a commencé à militer à 12 ans dans des groupes de droits civiques, etc. Donc, ça l'impressionne pas du tout, en fait, les Young Lords, ça prouve pas son baptême du feu politique. Iris Morales, elle est partie à 15 ans de chez elle pour faire de la politique. Dès 15 ans, elle essaye d'organiser les locataires de son immeuble pour faire une grève des loyers, etc. Et donc, je pense que ça tient aussi, le fait qu'ils soient pas beaucoup, à la force de personnalité comme ces femmes-là. Et donc, au début, elle découvre très tôt que le comité central est machiste et attend plutôt des femmes comme elle, qu'elles tapent les rapports, qu'elles fassent le café, qu'elles gardent les gamins, etc. Donc là, évidemment, ça les intéresse pas le moins du monde. Donc, elles décident de créer... Enfin, elles obtiennent la création d'une commission des femmes, un Women's Caucus, qui va être l'équivalent d'un groupe de parole non mixte, en gros. Et il faut quand même rappeler que c'est la culture américaine des années 60, donc qui est sexiste, et en plus, beaucoup ont grandi dans une culture portoricaine machiste, où la culture vraiment ultra patriarcale, quoi. Et donc, où c'est courant que les hommes tapent, enfin, c'est accepté que les hommes tapent les femmes, c'est accepté que les hommes peuvent avoir une épouse et l'équivalent d'une femme entretenue qui s'appelle la cortera, c'est une coutume qui est complètement acceptée. Et donc, les jeunes femmes une bonne partie en tout cas de celles qui rejoignent les Lords, elles viennent de cette... elles ont grandi dans cette culture-là. Et beaucoup le disent, qu'elles rejoignent aussi les Lords parce qu'elles veulent pas vivre la vie qu'ont vécu leur mère, quoi.
Denise Oliver. Dans le mouvement des femmes blanches, beaucoup avaient une position séparatiste ou petite bourgeoise et disaient « Les femmes sont opprimées parce qu'elles doivent rester à la maison et ne peuvent pas travailler. Mais nous venions d'une communauté pauvre où les femmes ont, pour la plupart, toujours travaillé. En matière de privilèges et de classe, nous occupions des positions très différentes. »
Dans ce groupe non mixte, elles vont à la fois parler pour faire émerger les questions de sexisme du parti, pour le constituer en fait en un objet, un problème, quelque chose qu'elles veulent changer, et elles en servent aussi pour que ce soit un espace de formation pour les plus jeunes, pour les moins expérimentés. Par exemple, donc celles qui ont déjà de l'expérience, c'est ce que Denise Oliver raconte, on apprenait aux plus jeunes, aux moins expérimentés à prendre la parole en public, à oser s'exprimer. Il y a un journal aussi dans le parti qui s'appelle Palante et elles...
Et voilà, on coupe la chic à cette rediffusion de Lilith Martin et les autres. Vous pourrez réécouter toute l'émission sur leur blog et vous pouvez entendre en live Claire Richard que vous avez entendu dans ce doc en ce moment à l'Amicale rue Sébastien Griff. Et puis les autres moments de l'agenda tout de suite pour vous.
Et ben par contre, si vous êtes plus près du 14 rue Tony Garnier à Lyon, et ben vous pouvez aller ce soir aussi voir le collectif local de la campagne Glyphosate qui organise ce soir une réunion d'information à la Maison de l'Environnement. Donc je répète, 14 rue Tony Garnier à Lyon.
Et sinon, demain à 14h à la Plume Noire, il y aura le Caféministe. Et donc il y aura une projection d'un film qui s'appelle « How to survive a plague ». Dans la lignée des conférences précédentes de la commission antipatriarcale portée sur la négligence médicale et la nécessité d'auto-organisation, le Café Ministre de la CGA vous propose la diffusion du documentaire jamais paru en France, qui s'appelle du coup en anglais « How to survive a plague » et en français « Comment survivre à une peste ». Outil de lutte et de mémoire, ce documentaire revient sur les travaux du comité traitement et données d'ACT UP, leur lutte contre les institutions gouvernementales et les grandes compagnies pharmaceutiques pour le développement d'un traitement contre le sida. Ce documentaire se fait aussi la mémoire des actions politiques d'ACT UP sur une période allant de 1989, époque où en l'absence de traitement, la maladie est fatale dans 100% des cas, à 1996, date de découverte de la trithérapie. La projection sera suivie d'une prise de parole sur la situation actuelle concernant la lutte contre le sida, les avancées thérapeutiques, le stigma lié à la maladie et l'inégalité face à l'accès au traitement. La projection est à prix libre, donc c'est à 14h samedi à la Plume Noire, 8 rue Diderot.
Et après lundi, vous pouvez aller soutenir Sophie Perrin à la chambre correctionnelle numéro 13 du tribunal de grande instance. Sophie Perrin qui a eu plein de problèmes avec plein de problèmes judiciaires, notamment avec l'université Lyon 2 qui l'a empêché d'avoir accès à son doctorat en 2010. Et du coup, il y a eu une longue affaire qui fait qu'elle est encore en procès et vous pouvez aller la soutenir donc à 14h. Sinon, lundi, vous pouvez aller à la permanence juridique de soutien aux sans-papiers aussi, c'est à la Lutine, 91 rue Montesquieu, à 18h30. Et vous pouvez